Qui a volé les rayures du petit zèbre Arthur ?
C'est moi ! C'est moi !
Toto Hibou !
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel pincer sa guitare.
Saute, saute, un, deux.
Allô, allô ? Ici, les petits loups !
Toto Hibou !
C'est votre moment à vous ! C'est parti !
Bonjour à vous, les louveteaux lefteaux. Comment allez-vous ce matin ? L'hiver approche tout doucement dans ses chaussons de glace. Les gelées matinales blanchissent la campagne et les toits des villages. Et les premiers flocons sont même tombés dans le Pila au tout début du mois. La neige a quelque chose de magique. Elle raconte les joies de l'enfance, le chemin qui craque sous la semelle, les glissades en luge et les balades entre les grands sapins poudrés. Oui, la neige a quelque chose de magique quand on la voit virevolter derrière le carreau et qu'on est bien au chaud chez soi. Mais la neige, c'est aussi des souvenirs très durs pour ceux qui ont vécu un hiver rigoureux sans avoir un abri solide ou un poêle pour se réchauffer. Kamel Khelif est arrivé en France avec sa famille alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Ils avaient quitté l'Algérie, affaiblis par la guerre d'indépendance et de décolonisation, avec l'espoir de trouver une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée, en accostant à Marseille. Il s'y installe en hiver 1964, un hiver qui verra arriver une vague de froid polaire tardive au mois de mars. Une tempête de neige s'abat alors sur tout le pays, y compris dans le sud de la France, frappant durement les familles qui ne vivaient pas dans le confort d'une maison, dont celle de Kamel. C'est son histoire qu'il raconte simplement dans cet album que je vous propose de découvrir maintenant, les petits loups. Voici Premier hiver, un ouvrage écrit et illustré par Kamel Khelif. Ils avaient été chassés par la misère de la guerre qui avait eu lieu là-bas. Il n'y avait pas si longtemps, et le désir violent de traverser la mer pour trouver ailleurs une vie meilleure. Les baraques s'étendaient à perte de vue sur ces anciens lieux de villégiature où dominaient quelques vieilles bastides en ruine que les habitants nommaient pompeusement « châteaux ». Les jours devenaient froids et courts. Le matin, l'eau gelait et la gelée blanche scintillait sur les herbes jaunes que l'été avait abandonnées sur les terrains vagues. Elle se retourna sur le matelas en mousse, le visage vers le mur, et remonta sur son épaule la couverture rêche qu'elle avait emportée avec elle de là-bas. Elle se réveilla, puis se pencha vers le poêle pour entretenir le feu. Une fumée noire au goût amer s'éleva par bouffées légères, irritant tout à coup ses yeux. À travers la fenêtre, elle regarda cette chose étrange, blanche, légère et froide qui couvrait les toits bas des baraques endormies dans l'obscurité de ce premier hiver. Son regard était rempli à la fois d'une attention pieuse, d'espérance et de désespoir. Elle retira, au milieu de la vaisselle, une petite bassine émaillée qu'elle posa devant elle pour pétrir le pain. À ce moment-là, une souris lui glissa entre les pieds. D'un grand sac de semoule, elle retira de ses deux mains, délicatement en murmurant un dicton, quelques grosses poignées qu'elle déposa entraînées dans la bassine. Chaque fois qu'elle accomplissait ses gestes, elle se demandait pourquoi cette graine était plus blanche, plus raffinée que celle qu'elle avait connue avant. Elle humidifia la semoule d'huile et d'eau et la saupoudra de quelques pincées de sel. Tous les matins, de bonne heure, se répandait l'appétissante odeur de galettes chaudes qui faisait disparaître, au moins pour un moment, l'odeur stagnante dans la baraque. Longtemps, il avait été loin de ces odeurs-là. Il était venu seul dans ce pays, quelques mois avant que nous le rejoignions, avec, comme seul bagage, une adresse dans sa poche, écrite sur un bout de feuille de cahier d'écolier dont il ne savait pas faire la lecture. Le voyage sur le bateau avait coûté 20 francs. Parmi les ânes et les mulets, il avait trouvé une place au milieu des excréments et des urines. Perdu, il avait partagé avec d'autres perdus des chambres d'hôtel ou des pièces louées au mois avant de trouver cette baraque de bois sans eau, sans électricité et sans toilette. Maintenant, tous les matins, il partait de la maison avec une sacoche où ma mère avait rangé un morceau de galette chaude et une gamelle de ragoût. Voici qu'arrivaient les premières lueurs du matin. Dans l'humidité de mon lit, qui éloignait la torpeur du sommeil, je voyais la lune dans son halo de lumière. Je refermais les yeux pour faire revenir le rêve, puis les ouvrais à nouveau. Je me levais sans savoir comment dissiper ma gêne. Je soufflais sur la vitre de la fenêtre pour faire fondre la glace qui glissait par à-coups en minces filets d'eau et s'en allait courir sur les planches que mon père avait recouvertes par endroits de papier journal goudronné pour que le froid reste dehors. J'apercevais, malgré la neige accumulée, la forme à peine visible du fossé qui passait devant la maison, là où se rassemblaient les eaux de pluie qui s'en allaient plus bas vers la ville et rejoignaient la mer, en emportant avec elles de la poussière, des bouts de bois, des morceaux de baraques. Comme par enchantement, apparaissaient les marchands ambulants, dents en cuivre le charbonnier, les vendeurs de tissus Pedro et sa femme Maria, et Ossine, le marchand de disques et de chaussures. Quelques femmes se retrouvaient là-devant à écouter les dernières chansons en vogue au son des voix mélancoliques, à comparer les prix et les marchandises, à échanger des nouvelles et des confidences. Devant l'épicerie de Boualem, qui servait aussi de dépôt pour le courrier, un feu avait été allumé et un attroupement s'était vite formé. Quand les jours de paye étaient loin derrière, nombreuses étaient les familles qui joignaient les deux bouts grâce au crédit que Boualem leur accordait. Pour certaines, les comptes sur le livret devenaient de plus en plus longs. Emmitouflée dans un manteau usé, portant des chaussures béantes, entourées de crochets de serpent d'où sortaient ses orteils gelés, Monsieur Louis, qui, tôt le matin, en pestait l'alcool, avait trouvé refuge dans une vieille voiture abandonnée. Lui aussi venait d'un autre endroit. Dans ses yeux vides, quelqu'un habitait encore son regard, comme au temps où il était un homme et que rien ne s'était brisé. Dans la flamme vacillante, il eut des visions. Son passé s'embrasait et s'éteignait sur sa jeunesse perdue que la guerre lui avait dérobée quand il fut déporté dans les camps de travail nazis. Des hommes en treillis sombres sont venus hier pour annoncer qu'après l'hiver, les bulldozers débarqueront pour raser les baraques et que les familles seront relogées. C'est Boualem qui disait ça. Il rajouta d'un ton ironique en dévisageant les gamins. La jeunesse perdue. Vos parents ont voulu la France et la France vous avalera. Tout autour des baraques surgissaient de la terre des immeubles cubiques avec de l'eau courante à l'évier, disait-on, de l'électricité et du gaz. Un monde nouveau était en train de naître sous nos yeux. Un monde dont nous ne ferions pas partie. Un enfant haletant passa en criant. « Il y a eu un accident sur le chantier !» Deux ouvriers sont morts, ensevelis par un éboulis. Le soleil était déjà bas au-dessus des baraques et le ciel changeait de couleur. L'air aussi était plus clair. Des ombres s'agitaient sur le sol. Les baraques semblaient plus grandes. Et dans cet air limpide, il y avait un sentiment de révolte aiguë. Les ouvriers qui avaient cessé le travail après l'accident découvrirent que l'entreprise ne les avait pas assurés pour gagner davantage. Un grand silence enveloppait la terre. Un corbeau volait en spirale au-dessus des taudis. La neige se posait sur ma tête découverte et fondait en petites gouttes sur ma nuque. Je remontais le chemin de boue glacée, un paquet de farine à la main. De la maison des voisins s'échappait un parfum de miel et de fleurs d'oranger. Une jeune fille chantait pour endormir un enfant. Elle chantait dans sa langue une berceuse que je ne comprenais pas. L'air froid rapporté dans les plis de mon manteau se répandait dans la pièce où ma mère était assise sur son tapis de prière. Si j'approchais mes yeux de sa bouche, je pouvais lire la prière qu'elle répétait et répétait depuis son enfance. Je l'aidais à découper la viande du mouton de l'Aïd de la semaine dernière pour préparer le repas du soir, tandis que ma sœur aux longues nattes tressées faisait frire des beignets pour recevoir une voisine. Je pris un bol de lait chaud et m'assis à la fenêtre. La pénombre s'accumulait déjà dans la pièce et dehors. Le crépuscule rampait depuis le mur tout proche des voisins. Mon père était, pour notre survie, dans la cité provisoire qu'il construisait et qu'un jour nous habiterions. Et ici, à la fenêtre, il y avait moi. Le soir, à son retour du chantier, je me précipitais sur sa sacoche pour chercher fébrilement un reste de ses repas de midi, des miettes, une odeur, quelque chose. Quelque chose dont je ne savais pas le nom. Là-haut, très loin, derrière la course des nuages, les étoiles tremblaient dans l'infini soir de la nuit. Maintenant, on entendait même tomber des gouttes espacées sur la toiture en zinc. La neige mêlée à la pluie avait cessé. C'était le calme profond. Un calme inquiétant, comme si d'un instant à l'autre, quelque chose allait arriver. Je savais qu'après la neige et la pluie, le vent pouvait se lever et se déchaîner d'un coup, en rafale, durant 24 heures. S'il ne cessait pas alors, ça durerait 3 jours. S'il ne cessait pas au bout des 3 jours, il y en avait pour 9 jours. Soudain, un cri. Un incendie ! Un incendie ! Des voix de voisins derrière chez nous sortaient de l'obscurité. Une colonne rouge et noire s'élevait. Un incendie. Des baraques sortaient de l'obscurité comme en plein jour. La colonne s'élargissait, s'agrandissait. Des gens criaient, accouraient vers la fontaine. Quelqu'un jeta une couverture, une autre un tapis. Sur les flammes se découpait le toit noir de la baraque. Le toit a dû s'effondrer. Ça s'éteint. C'était fini. En 5 minutes, la baraque avait flambé. Il ne restait qu'un amas de ferraille calcinée, quelques ressorts tordus. Et tout s'était à nouveau obscurci. Je retirais 2 peaux de mouton au milieu des couvertures empilées que je déposais à même le sol, entre le mur chaud de la cuisine et le poêle à charbon. De là, en écoutant le mistral siffler dans le tuyau du poêle, je partais vers le sommeil et le rêve. Le rêve que je faisais chaque fois restait le même. Un lieu. Un autre lieu que celui que nous avions quitté là-bas, ou que nous n'avions pas trouvé. ici. C'était Aïe Al-Khir Inou, une merveilleuse chanson kabyle venue toute droite d'Algérie, ici chantée par Amel Brahim Djelloul et orchestrée par Zaya Ziouani. Aïe Al-Khir Inou, quel jour béni! Cette chanson raconte la joie et la fierté pour toute une famille d'accueillir un enfant qui naît et la fête qui se prépare en son honneur. On célèbre sa venue au monde comme un vrai cadeau du ciel. La Kabylie est une région montagneuse située au nord de l'Algérie et à l'est d'Alger, sa capitale. Du haut des cimes du Djourdjoura, où il neige en hiver et au printemps, de vastes vallées verdoyantes s'étalent, peuplées de petits villages. Mais l'Algérie, c'est aussi le pays du désert, puisque 90% du pays est recouvert par le Sahara au sud. Quelle diversité pour ce pays qui est si grand! L'heure du poème approche à petits pas feutrés les loulouves, à petits pas dans la neige. Voici, en hiver, une poésie aussi délicate qu'un flocon, brodée par Chloé Douglas. À chaque fois que la neige tombe, je crois voir un ange sur un fil transparent. La danse de cette délicate créature est différente chaque fois. Toute sa blancheur, pure et brillante, nous entoure, il semble, pour toujours. La pure et fine blanche neige, empruntée de soleils et de lunes, n'a pas pu voir les hommes emportés par le vent. Cette fée de l'hiver n'a pas senti l'odeur de la guerre. Elle n'a pas eu le moment de réfléchir, mais elle sait que son cœur, pur et jeune, est rempli de rêves et de rimes qu'elle n'a pas encore exprimés. Elle commence une nouvelle année avec un frisson du nord dans le corps. Et voilà, les loupiottes et les loupiots. Une histoire, une chanson et une poésie. L'heure est arrivée de nous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Et pour vous tenir chaud, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à voyager en retrouvant toutes les émissions sur le site internet de la radio www.radiodici.com, rubrique Ici les petits loups, évidemment. Et chaque dimanche, sur les ondes, vous pourrez écouter ou réécouter une ancienne émission. La semaine prochaine, l'hiver continue de s'inviter dans nos chaumières avec une histoire qui sent Noël. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, gardez vos petits museaux bien au chaud. À ciao!
Tout le monde debout! Ciao les petits loups!
Salut, copain!
Allez, bah ciao! À bientôt!
Ouais!